Stone, bonjour.
Bonjour.
Comment on dit, Andy Stone ou Annie Stone?
Bah les amis disent Annie, tout simplement.
Mais tout le monde vous connaît sous le nom de Stone, vous êtes chanteuse, comédienne, méga star dans les années 70, notamment avec ceci. Vous l'aimez toujours cette chanson ou est-ce qu'elle vous sort par les trous de nez?
Ah non, je l'aime toujours.
Ah oui,
non, sinon, bah non, il faut l'aimer parce que sinon c'est insupportable à chanter.
Il y a plein de chanteurs, plein de groupes qui
oui,
détestent leur plus gros
tube. Je sais, c'est affreux ça. Oui, oui. Non, non, moi ça va, je la supporte très bien encore.
Chanson interprétée en duo avec Eric Chardin, c'était Stone et Chardin. On va citer encore Made in Normandie, Le Prix des Allumettes où il y a du soleil sur la France. Mmh. On peut encore vous voir sur scène dans la tournée H Tendre et Fête de Bois où vous avez arrêté?
Non, je suis censée reprendre le flambeau en janvier 2018 pour la prochaine tournée qui démarrera à ce moment-là.
J'aime bien le sensé, on va comprendre
oui,
pourquoi. Vous venez de publier votre autobiographie chez Robert Laffont, 380 pages. Le titre est absolument formidable, complètement Stone. Pourquoi avoir fait ce livre? Vous attendiez que Chardin ne soit plus de ce monde pour
non,
tout raconter?
Non, pas du tout. Non, non, non. On avait déjà commis une petite bio il y a une vingtaine d'années avec Eric, mais qui était restée très confidentielle, quoi. Parce
et
que
soft.
L'auteur est soft. Oui, oui. Enfin, chacun racontait un peu sa version des événements. Et puis là, la proposition qu'on m'a faite m'a plu, quoi. Je me suis dit, bah oui, c'est le moment, allons-y.
Alors, je vais parler du prélude, c'est la première page. Vous parlez de votre look capillaire, cette fameuse coupe à la Stone qui est passée à la postérité et même dans le langage courant. Vous expliquez d'où elle vient et vous ajoutez « Mais tout cela n'est pas très important, ce n'est que de l'image ». Bah, la preuve que non, puisque vous commencez par ça.
Oui, bah oui, fallait démarrer, fallait trouver quelque chose
donc
pour,
très
pour enclencher l'affaire. Oui, c'est important, mais ça reste quand même de l'image.
Alors,
je dis.
On va crever l'abcès. Page 43, vous parlez de la frange et en fait, vous l'avez piqué à Brian Jones.
Complètement, bien sûr.
Ce que j'ignorais. Et j'ai aussi découvert que de cette frange découle votre surnom, parce qu'on vous appelait la petite Stone.
Voilà, c'est parti comme ça.
Comme les Rolling Stones. Alors,
tout à fait.
C'est juste absolument dingue. Ça raconte, ce livre raconte la saga du show business français dans les années 60-70. Et c'est un tourbillon. Par exemple, vous racontez la signature de votre premier contrat avec une maison de disques. Vous n'aviez jamais chanté de votre vie?
Non, jamais. Non, non. Enfin, si, je chantais pour mon plaisir dans ma salle de bain, comme
oui.
beaucoup de gens.
Non, mais
ou
c'est
alors
juste...
au bistrot de mon grand-père, quoi, voilà.
Et on vous propose une audition?
Oui, on me propose une audition.
Et là, vous signez chez Polydor?
Absolument, ça s'est passé comme ça.
Mais ouais, ça paraît totalement impensable.
Ah, mais j'étais pas la seule. Hein. Il y avait beaucoup de contrats qui signaient comme ça sur des gens qui avaient un bon look. Et on se disait, bon, bah voilà, une fois s'il a un bon look, qui va peut-être pousser la chansonnette pas trop mal.
Et tout ça sans coucher.
Ah, sans coucher.
Non,
du
je veux
tout.
Dire, vous n'étiez pas la petite amie du patron,
oh,
du
non,
producteur.
Non, loin de là, loin de là. Non, non, j'étais bien loin de toutes ces choses.
Il y a un chapitre qui s'intitule carrément L'Aventura. La chanson qu'on a entendue, La merde du mois.
Oui.
Pourquoi ce titre de chapitre?
Ah ben moi ça m'appartient pas, c'était ce qu'avait imaginé une célèbre station de radio qui avait reçu le disque et qui trouvait ça épouvantable. Donc il fallait bien qu'ils trouvent un terme approprié, c'est ce terme qu'ils ont choisi.
C'était Europe 1.
C'était Europe 1 pour pas la nommer, oui.
Alors vous racontez la création de cette chanson. Chardin ne voulait pas composer une chanson pour vous deux en duo, il voulait composer d'autres titres. Racontez qu'il a fait.
Ah ben justement, il a mis les bâtons dans les roues volontairement, c'est ça qui est fou. C'est-à-dire qu'en fait, il a composé une valse, donc totalement à l'encontre de tout ce qui se faisait à l'époque, en se disant, bon bah avec ce système-là, on est sûr de faire un bide, quoi, c'est réglé.
Résultat de la valse, 3 millions de 45 tours vendus, ça a été le record de France des ventes de 45 tours jusqu'à la Danse des Canards
oui,
en 81.
Tout à fait.
Vous étiez malheureuse d'être dépossédée de votre
oh,
record?
Oh non, pas du tout, au contraire, plus ça vend de disques et mieux c'est.
Même la Danse des Canards?
Mais bien sûr, enfin,
vous l'avez
la
chez
Danse
vous
des Canards, je ne l'ai pas personnellement, mais il m'est arrivé de, pourquoi pas, de danser dessus.
J'aimerais voir ça. Stone avec nous sur France Info, on se retrouve tout à l'heure. La chanteuse Stone ou Annie Stone avec nous sur France Info, qui vient de publier chez Robert Laffont son autobiographie, ça s'appelle Complètement Stone. Et alors, il y a un cahier photo au centre du livre, c'est absolument magnifique, on voit vos parents, votre enfance, les grandes années show business, les pantalons à pattes d'ef, de la couleur, du kitsch, des cols pelle à tarte. Et alors, quand on feuillette, on tombe évidemment sur la page qui suit, et sur la page qui suit, on lit ceci. Petite interlude chimique. Pour être tout à fait franche, en matière de drogue, j'ai tout expérimenté. On a même fêté mes 30 ans avec des champignons hallucinogènes. Oui. Ça vous fait marrer?
Ah, il y a de quoi rigoler, oui.
Non, parce qu'on vous imaginait pas comme ça. On pensait que la variété française était compassée, on n'imaginait pas.
On s'imagine des choses, alors que je connais quelques camarades qu'on ne soupçonnerait pas qui sont les premiers à s'éclater, à faire la fête.
Au début des années 80, nous recevions beaucoup de gens à la maison qui arrivaient parfois avec un sachet de cocaïne en cadeau, comme s'ils venaient avec des bouteilles de vin.
C'est ça.
Mais comment vous expliquez que vous n'ayez pas plongé dans la drogue, justement ?
Eh ben, j'y ai plongé temporairement.
Ah oui ?
Mais c'est vrai que, compte tenu de ce qu'on savait, des effets néfastes, et puis surtout du plaisir que c'est d'en prendre, c'est ça qui est terrible. Ben oui, il faut considérer, là on voit la drogue, le côté aïe aïe aïe, mais à la base c'est pour s'éclater, c'est pour passer un bon moment. Et quand c'est trop bon, on se dit halte là, non.
Vous le racontez, oui. Vous le racontez. La première et la dernière fois que vous avez pris de l'héroïne, vous dites, mais c'est tellement agréable.
Ah, c'est tellement génial, mais on comprend tout. Pourquoi les gens, justement, se deviennent accros très très vite? Parce que c'est une impression de bonheur total, quoi. Tout est aplani, il n'y a plus de soucis, on rigole, tout est beau, tout est magnifique. C'est pas possible, quoi. Et comme on sait, hélas, que ça nous retombe dessus vraiment au centuple, il faut mieux tout de suite lever le pied, ça c'est sûr.
À l'époque, vous chantiez ceci, l'Aventura, c'est dormir chaque nuit dans tes bras, sauf que vous révélez que sexuellement, bon, c'était pas l'Aventura. Hein.
On peut pas dire, non, mais bon, faut dire que, compte tenu de l'époque, et après justement un peu discussion avec les copines, j'étais pas la seule dans ce cas-là. On était assez, malgré l'époque 70, qui soi-disant, là, c'était la libération des mœurs et tout, la plupart étaient très coincées, et les femmes étaient encore un peu... disons, pas vraiment révélé à ce niveau-là, quoi.
C'est vous qui étiez coincé ou c'était votre mari ?
Les deux.
Alors, vous racontez vraiment tout. Comment votre mère vous a offert une opération pour vous refaire la poitrine ?
Oui.
Pourquoi ne pas l'avoir cachée ?
Oh, bah parce que maintenant, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait dans les mœurs. Et il y a eu, en plus, toute cette... avec les prothèses qui ont été... voilà,
alors, je me suis dit ça.
Bah oui.
On aurait presque pu vous interviewer ici, sur France Info,
bien
parce
sûr.
Que vous avez fait partie
tout
de l'affaire des prothèses
des
PIP.
Des prothèses PIP, voilà, c'est ça. Donc, je pense que maintenant, on est à un stade où vraiment tout le monde en parle tout à fait librement et que c'est plus du tout tabou ni secret, du tout.
Vous reconnaissez avoir fait une liposuccion parce que vous étiez, dites-vous, complexé par votre culotte de cheval et vos genoux.
C'est vrai.
Également, le Botox et un lifting à 60 ans. Et vous ajoutez, pour les 70 ans cette année, je ne sais pas encore, je réfléchis.
Oui.
Alors, je vous pose la question, quelle décision avez-vous prise ?
Alors, je n'ai pas pris de décision, vu que j'attends de dépasser, disons, l'année de mes 70 ans jusqu'à 71 à cause de la prophétie.
Eh oui, et ça, vous le racontez dans un chapitre vers la fin. Mmh. Il est fort possible que je ne passe pas l'année.
Voilà.
Parce que vous rencontrez une voyante en 66 qui dit, vous allez mourir, vous ne verrez pas la 70e année.
70, si, mais pas la 71, peut-être.
Ça vous fait rigoler, vous y croyez ? Vous y croyez
pas ?
Ah,
j'y crois sans y croire. C'est-à-dire que cette femme m'a quand même prédit des choses qui se sont révélées exactes. Donc, c'est à partir de là, je me dis, bon, il y a peut-être de la vérité dans ce qu'elle a dit. Maintenant, j'en ai reparlé à certaines de mes copines médiums, entre autres, dont Geneviève Delpech, avec qui je suis très amie, et elle m'a dit, t'inquiète pas, c'est des prédictions bidons, ça tient pas debout, faut pas du tout te fier à ça. Alors, souhaitons qu'elle ait raison, parce que moi, je veux bien continuer à vivre, hein, c'est pas le problème.
Alors, l'info a été reprise par Téléstar, dans le numéro du 5 avril, il écrit « Stone, il est fort possible que je ne passe pas l'année ». Et c'est dans la rubrique « People » décès.
Ah bon, je n'ai pas remarqué ça, ça c'est pas mal. Eh ben oui, pourquoi pas, ben, comme ça sera réglé.
Stone avec nous, bien vivante sur France Info, on se retrouve tout à l'heure. La chanteuse Stone avec nous est comédienne. Vous lisez ce qui s'écrit sur vous dans la presse ou pas ?
Oui, pas tout. Je trouve des fois, oui, quand je tombe dessus, mais ça s'arrête là.
Vous faites un procès quand il y a une chose fausse ?
Ah, jamais, non, du tout. J'en ai fait il y a longtemps, mais plus maintenant.
Sur quel thème ? C'était quoi ?
Oh, bah c'était une histoire encore bidon, je sais même plus, oh là là.
Oh, dis donc, en parlant d'histoire bidon, vous racontez dans votre livre, page 117, que vous inventiez plein d'histoires à destination de la presse. Par exemple, une fois, vous aviez imposé vos mains sur la jambe d'Éric Chardin pour le guérir. Ça vous fait rigoler ?
Ah, ben, il y avait de quoi rigoler. Oui, parce que c'était monnaie courante à l'époque. Tous les chanteurs passaient par là, quoi. Ben, il fallait trouver des choses à dire. Bon, en plus, ça restait très... il n'y avait pas 36 journaux qui, comme maintenant, qui font ça. C'était très limité.
C'était Ici Paris, France Dimanche,
bien sûr. Et puis, il se trouvait qu'on était très copains avec tous les journalistes et les photographes de ces journaux.
Oui, mais alors, attendez, Mais alors... comment vous pouvez raconter aux journaux n'importe quoi pour faire vendre du papier et ensuite faire un procès si quelque chose de faux est écrit?
Ah non, ça c'est dit deux choses différentes. Si on fait un procès, c'est que l'article a été fait sans notre consentement. Maintenant, nous, on était consentants. Alors, on inventait. Il y avait toujours une base, une petite base vraie. Ouais. Et puis après, évidemment, ça délirait, quoi. Après, c'était n'importe quoi.
Vous avez fait un reportage photo sur votre grand-mère.
Oui.
Avec la grand-mère d'une autre.
Exactement. Parce que la photo. Était... La photo. Il fallait trouver une photo. J'avais pas une photo de ma grand-mère sur moi. Donc, une copine était là. Elle m'a filé la photo de sa grand-mère à elle. Et puis voilà, c'était réglé.
Alors, Éric Chardin, ça a été votre mari.
Mmh.
Est-il vrai qu'il refusait de coucher avec vous tant que vous n'étiez pas mariés?
Il était dans le trip, mais à l'ancienne, quoi. C'est-à-dire, on ne couche pas avec sa femme, celle qui va devenir sa femme avant le mariage. Mais c'était fou, quoi. Qu'il avait des idées pareilles, ça paraît insensé.
Et vous, vous étiez pour?
Bah, j'étais pour. J'allais pas non plus lui forcer la main. C'est le cas de le dire.
Alors, beaucoup moins joyeux, est-il vrai que vous n'avez plus de nouvelles de votre frère Claude?
Non, alors justement, mais hélas, ma famille est partie en éclat avec le divorce de mes parents.
Je vais vous dire pourquoi je vous en parle. Oui. Page 29, vous racontez que vous lui avez écrit il y a quelques années une longue lettre, lettre à laquelle il n'a jamais répondu, vous dites depuis plus de nouvelles, et avec la sortie du livre.
Oh, ça changera rien, non,
ah
je
bon
pense pas. On n'a plus d'atomes crochus, aucun. Donc, c'est vrai que c'est dommage, parce que j'aimais beaucoup mon frère quand on était gamin, mais après, chacun prend une décision et puis s'en tient à ça.
Et s'il vous entend sur France Info, il fait quoi? Il vous appelle? Il vous écrit?
Ah ben s'il veut m'appeler ou m'écrire, je serais ravie, mais comme il n'en a pas l'intention, ben chacun reste là où il est.
Une petite révélation dans le livre, on sait que Johnny Hallyday avait soutenu politiquement Valéry Giscard d'Estaing, mais tout le monde se demandait pourquoi. Et vous écrivez ceci, la vraie raison relevait d'une histoire d'impôts impayés et d'amnistie promise par Giscard, vraiment?
Paraît-il, c'est ce que Johnny nous avait dit maintenant.
Ah ben c'est lui qui
mais
dit.
Mais je pense que c'était ça, oui, bah oui, c'était quand même, il y avait... C'était normal, quelque part.
Et alors, est-ce que Giscard a fait sauter les impôts de Johnny?
Je ne sais pas, je ne sais pas. Je n'ai pas suivi la suite des événements, je ne sais pas.
Alors, j'ai parlé d'argent. Est-il vrai que Chardin essayait toujours de vous embrouiller sur l'argent?
C'est même pas qu'il m'embrouillait, c'est qu'il savait pas lui-même où il en était, quoi. Donc, c'était le gros foutoir, quoi, en quelque sorte.
Oh, dis donc, vous racontez que vous deviez faire une pub pour des produits laitiers.
Oui, oui.
Il vous a dit, on prend 30 000 chacun, c'est des francs. Et en fait, il prenait 10 fois plus.
Oui, 10 fois plus. Ah, bah, ça, c'était Eric. Bah, il était.
Attendez, vous appelez pas ça une embrouille?
C'était une embrouille, mais lui, il justifiait l'affaire en disant, tu sais, maintenant qu'on est séparés, il faut qu'on paye des impôts en retard. Donc, ça, c'est ta part. Voilà. C'est la part d'impôt que j'étais censée de lui devoir. Donc, il s'était, lui, pris la somme voulue, sans m'en parler, tout simplement.
Dernière question sur l'argent. Vous avez été une des premières chanteuses à reconnaître avoir fait un lifting.
Mmh.
Est-il vrai que pour vous faire témoigner, les chaînes de télé vous proposaient de vous payer?
Oui, c'est arrivé à plusieurs émissions, tout à fait. Bah oui, parce qu'ils avaient beaucoup, je parle de ça il y a une dizaine d'années déjà.
Ouais.
Et ils avaient beaucoup de difficultés à trouver des gens qui, enfin des gens un peu connus quoi, qui avouent être passés sur la table d'opération. Et il y en avait pas. Tout le monde non, je n'ai rien fait. Moi c'est naturel, c'est les éclairages. Enfin on entendait des choses aberrantes. Donc c'est vrai que quand moi je voulais bien en parler, bah ils proposaient d'avoir un petit cachet à la.
Et c'était bien payé.
Oui, très bien pour le peu qu'il y a à en dire en plus.
Super. On saura tout. Merci beaucoup Stone d'être venu nous voir.
Sympa.